D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. En ce moment, une femme cherche le pouvoir en France, et ça n'est pas joli à voir. En ce moment, plusieurs femmes qui cherchent le pouvoir en Europe sont d'extrême droite. En France, celle-ci. En Allemagne, Frauke Petri. En Norvège, Siv Jensen. Au Danemark, Pia Kjærsgaard. Je n'en déduirai pas, comme j'ai entendu certains le faire avec le Front National sous prétexte que deux de ses dirigeants sont gays, que c'est un parti soutenu par les gays. D'une part, c'est un parti essentiellement hétérosexuel et soutenu par des électeurs hétérosexuels. Deuxièmement, c'est faux. Troisièmement, il y a une homophobie sournoise dans la projection permanente de cet argument, comme il y aurait de la misogynie à faire le rapprochement entre ces noms de femmes politiques d'extrême droite et dire que les femmes soutiennent l'extrême droite. Il faut se méfier de la stupidité, elle est sommaire et rapide, cela lui donne beaucoup de charme. Certaines femmes ont exercé ou exercent le pouvoir, la veuve Mao, Margaret Thatcher, en ce moment la maire 5 étoiles de la ville de Rome, et ça n'est pas toujours fameux. Virginia Raggi, malgré la propagande de son parti contre la corruption et l'incompétence des autres, s'est révélée aussi incompétente et corrompue. Eh bien, c'est rassurant. Cela veut dire qu'il n'y a pas de différence essentielle dans la recherche ni dans l'exercice du pouvoir, que ce qui prime n'est pas femme ou homme, mais pouvoir. Et le chef de gouvernement le plus décent du monde occidental en ce moment est une femme, Angela Merkel. On peut ajouter que les femmes cherchent et exercent le pouvoir dans un monde dont le fonctionnement est régi par les mâles hétérosexuels et que, quoi qu'elles en aient, elles doivent s'y adapter. Les élections montrent mieux que tout la prépotence des modèles. 53% des femmes blanches ont voté pour Donald Trump, qui avait parlé des femmes en termes répugnants. Des dizaines de milliers de femmes turques ont manifesté en faveur du référendum destiné à donner de quasi plein pouvoir à Erdogan, qui leur nie toute liberté. Une journaliste européenne, correspondante à Ankara, m'a raconté la chose suivante. Erdogan a fait des études religieuses, se croit une mission morale et trouve les femmes inférieures. Elle lui a demandé « Mais comment faites-vous pour faire campagne auprès des femmes, vous qui voulez les voiler toutes ?» Et voici ce que ce cuistre a répondu. « Chaque fois que, en campagne électorale, je serre la main d'une femme, je prie Dieu dans mon fort intérieur de me pardonner. Je prie Dieu dans mon fort intérieur. Ah, la scène de Molière, eh bien, tant mieux. L'hypocrisie du pouvoir nous protège aussi peu que ce soit. Le jour où Erdogan ne sera plus du tout hypocrite est celui où il aura ôté le droit de vote aux femmes. » En ce moment, on rapporte que Aung San Suu Kyi, au pouvoir, est moins bien qu'elle ne l'était dans l'opposition. Elle hésiterait à faire ceci, elle ne réussirait pas à faire cela. Eh bien, c'est encore plus rassurant. Il y aurait quelque chose d'étrange à ce qu'elle réussisse tout ce qu'elle avait promis. L'opposition est un idéalisme, le pouvoir une pratique. Il n'y a que les dictatures pour appliquer exactement ce qu'elles avaient promis. Une femme dans l'histoire de la politique et de la littérature a, premièrement, eu du génie, deuxièmement, été d'opposition. Elle a osé s'opposer à l'homme le plus puissant de son temps, qui n'aimait pas beaucoup l'opposition. Quel est le secret professionnel de Madame de Staël et des femmes qui résistent au pouvoir? Je reçois pour en parler Catriona Sett, éditrice dans la collection de la Pléiade des œuvres de Madame de Staël. Catriona Sett, avant d'être contre le pouvoir, Madame de Staël a été pour, car c'était la fille de Necker.
Alors en effet, elle a été pour dans la mesure où elle a été élevée dans le sein du pouvoir, en quelque sorte. Elle voit son père, qui connaît de très grands moments de désespoir et aussi des succès immenses dans le cadre politique, si je puis dire. Et c'est quelqu'un, du coup, qui, depuis sa plus tendre enfance, côtoie le pouvoir, côtoie les gens qui sont au pouvoir et s'intéresse à la manière dont le pouvoir peut avoir une influence sur la vie quotidienne.
Est-ce qu'elle a écrit en faveur de son père ? Parce qu'on pourrait croire que c'est une fille à père, elle a beaucoup aimé Necker, mais en réalité, vous expliquez dans votre préface qu'elle était plus proche en réalité de sa mère.
Alors enfant, elle a été très très proche de sa mère, et dans beaucoup de ses choix, par exemple esthétiques, elle est très proche de sa mère. Toutes deux, par exemple, sont attirées par le Nord, donc la grande polarité est en partie le produit de choix esthétiques proches de ceux de sa mère, Suzanne Necker, mais en même temps, à partir de l'adolescence, Germaine Necker est en grande partie une fille à papa, attirée par les choix de son père, enchantée de penser que la politique peut avoir une visée bienveillante, peut avoir un impact sur le quotidien de chacun et de chacune, et que les grandes idées qu'elle chérit peuvent aboutir à quelque chose qui pourrait changer le monde. Et lorsqu'arrive la Révolution française, elle va véritablement penser qu'est arrivé le moment de révolutionner une société inégalitaire.
Qu'est-ce qu'elle a fait comme étude? Au fait, évidemment, il n'y avait pas d'études politiques, mais quelle étude a-t-elle suivi?
Alors, elle a suivi des études très poussées grâce à sa mère, qui est sa maîtresse d'école à domicile, en quelque sorte, et qui dit, parce que sa mère est déjà une grande lectrice de Rousseau avant Germaine de Staël, « J'élève ma fille comme Émile plutôt que comme Sophie », faisant référence, bien entendu, au traité pédagogique de Rousseau. Donc, elle a étudié la littérature, elle a appris l'anglais, elle a lu beaucoup de textes qui sont des textes de théologie, de philosophie, etc. Mais elle a aussi eu une culture véritablement de proximité dans le salon de ses parents. Madame Nècre tient un salon qu'elle utilise essentiellement pour promouvoir les ambitions politiques de son mari, mais qu'elle utilise aussi parce que c'est une femme qui est véritablement intéressée par tout ce qui a trait à la culture. Donc elle reçoit énormément d'écrivains, par exemple, et de penseurs. Alors, à Paris d'abord, bien entendu, qui est le centre névralgique de la famille Nècre. Et donc, ce salon parisien permet de recevoir, par exemple, des académiciens, des ministres, des financiers, mais aussi des étrangers de passage. C'est un grand salon de l'élite libérale, déjà avant la Révolution. Et donc, c'est là, en partie, que Germaine de Staël va faire ses classes en politique.
Madame de Staël a été d'abord, vous le disiez, pour la Révolution. On cite toujours la phrase de Talleyrand, « Qui n'a pas connu l'Ancien Régime n'a pas connu la douceur de vivre ». Mais Madame de Staël témoigne du moment délicieux qu'a été la Révolution. Et voici ce qu'elle écrit. Les étrangers ne sauraient concevoir le charme et l'éclat tant vanté de la société de Paris s'ils n'ont vu la France que depuis 20 ans. Mais on peut dire avec vérité que jamais cette société n'a été aussi brillante et aussi sérieuse tout ensemble que pendant les 4 premières années de la Révolution, à compter de 1788 jusqu'à la fin de 1791. Et voilà un lieu commun chassé.
En effet, Germaine de Staël a vécu les débuts de la Révolution comme un moment d'ouverture, d'enthousiasme. Elle a pensé, comme beaucoup de membres de l'élite libérale, qu'on allait pouvoir réformer la société en gardant en partie des structures existantes, mais en arrivant à quelque chose qui serait meilleur, qui serait plus égalitaire. Et petit à petit, Germaine de Staël va déchanter après avoir véritablement accompagné les débuts de la Révolution avec enthousiasme, en particulier avec son père, bien entendu, rappelé à Paris, et ensuite avec son amant Louis de Narbonne, qui sera brièvement ministre de la guerre.
Ça veut dire d'ailleurs, puisque Madame de Staël est restée à Paris, qu'elle n'a été en danger à aucun moment. Elle n'a pas éprouvé le besoin de partir en exil.
Germaine de Staël est partie en exil à plusieurs reprises pendant la Révolution. Au départ, lorsqu'elle a accompagné ses parents, qui était parti à Coppet, donc sur les rives du Léman, là où il possédait une propriété. Et elle est allée en Suisse à plusieurs reprises, en Angleterre. Il y a eu des moments où elle a véritablement été inquiétée.
Oui, mais je veux dire, elle n'est pas partie vraiment en exil comme les aristocrates. Elle n'est pas allée à Coblence, elle n'est pas allée...
Alors, elle n'est pas allée à Coblence, mais elle est allée, après avoir accouché de son deuxième fils, du deuxième fils de Narbonne, alors qu'elle est encore baronne de Staël, elle est allée en Angleterre, à Juniper Hall, retrouver Narbonne, retrouver Talleyrand, retrouver Alexandre d'Arblay et toute une série d'aristocrates émigrés.
Elle a écrit des réflexions sur le procès de la reine par une femme. Or, on sait qu'elle n'aimait pas beaucoup Marie-Antoinette. Donc, quel était son point de vue de femme, puisque c'est dans le titre même?
Alors, ce texte est absolument passionnant. Germaine de Staël l'écrit en août 1793, donc au moment où Marie-Antoinette est emprisonnée et où rien n'est décidé quant à son sort. Et Germaine de Staël prend la plume parce qu'elle espère, par le texte, influencer à la fois l'opinion publique et ceux qui détiennent le pouvoir sur la reine. Donc ça démontre la foi qu'elle accorde à l'écrit. Elle pense que l'écrit peut avoir un effet véritablement d'intervention immédiate dans l'espace public. Et donc elle écrit ce texte en essayant d'expliquer à la fois que la Révolution, si elle met à mort la reine, eh bien va mettre à mort tout ce qu'il y a de féminin, en quelque sorte, donc va mettre les femmes dans une position où elles ne seront qu'aux marges de l'histoire, aux marges du pouvoir, aux marges de toute intervention politique possible. Et elle essaie aussi de démontrer aux révolutionnaires que ce serait une erreur tactique que de mettre à mort Marie-Antoinette, parce que ça lui donnerait une valeur que l'Ancien Régime ne lui reconnaissait pas. La reine est la femme du roi, elle n'est pas sacrée en France. Or, comme l'écrit Madame de Staël, si on assassine la reine, si on exécute la reine, eh bien, on la consacre à jamais. Et là, je pense que c'est un résumé de cet extraordinaire pragmatisme politique qu'elle a. Elle se rend compte, alors qu'il n'est pas encore question de mettre à mort Marie-Antoinette, c'est quelque chose qui est dans l'air, mais personne n'a pris de décision, Germaine de Salles se rend déjà compte de ce que sera la conséquence immédiate d'une exécution de la reine, et dont témoigne bien entendu toute la mode Marie-Antoinette qui existe encore de nos jours.
Alors nous l'avons évoqué en passant à l'instant, c'est qu'elle a été bannie par Napoléon, on va y venir, mais elle a été aussi bannie par le comité de salut public en octobre 1795, si je ne me trompe pas, et pour quelle raison ?
Alors, c'est une femme qui dérange, et elle va être bannie donc par différents régimes, parfois pour des raisons qui sont des raisons tangibles, parfois simplement parce qu'on veut l'écarter, on considère
parce
que c'est une... Elle agace, on considère que c'est une intrigante, qu'elle est dangereuse. Et donc, à plusieurs reprises, elle va être mise sur la touche par le pouvoir et elle fera l'objet de toute une série de sanctions qui sont très souvent des ordres d'exil, parfois à une distance donnée de Paris, parfois véritablement au dehors des frontières du royaume.
Et quelle était la raison pour laquelle le comité de salut public l'a exilée ? Je crois que c'était parce qu'elle avait fait imprimer les réflexions sur la paix intérieure, non ?
Alors, elle écrit pendant la Révolution toute une série de textes qui sont extrêmement inquiétants pour le pouvoir. Il y a les réflexions qu'elle adresse à Pitt, qui sont très appréciées par Fox dans la Chambre des communes. Il y a effectivement les réflexions sur la paix intérieure. Il y a toute une série de textes qui agacent. Et si on revient à l'exemple des réflexions sur le procès de la reine dont vous parliez à l'instant, signées, vous le rappeliez, donc par une femme, donc sans signature de Germaine de Staël, eh bien on sait très vite que c'est elle qui a écrit ce texte et l'ambassade suédoise va être mise à sac immédiatement, enfin par les commissaires, mise à sac, j'exagère, mais enfin, va être visité par les commissaires de la République qui viennent voir ce qui s'y passe, qui mettent les scellés, etc.
Puis on se doute quand même que prendre des risques sous le comité de salut public, c'est pas tout à fait la même chose que de prendre des risques sous la constituante, c'est plus risqué.
Alors, en effet, on court de gros risques quand on est repéré par des régimes qui gouvernent d'une manière qui n'est pas toujours conforme à l'état de droit.
Alors, elle fait la connaissance de Bonaparte en 97, sauf erreur, et c'est d'ailleurs Talleyrand que je citais tout à l'heure qui le lui a présenté. Et au départ, elle le trouve plutôt très bien, notre Bonaparte.
Alors, au départ, Germaine de Staël s'enthousiasme pour le héros de l'Italie. Et elle pense que c'est quelqu'un qui va réussir à stabiliser la France. Elle a donc été très déçue par la manière dont la Révolution s'est emballée, par cette perte d'espérance, et elle se dit peut-être qu'on va réussir à arriver à un équilibre. Et elle va assez vite déchanter.
Alors, elle déchante de quelle façon ? Est-ce qu'elle fait de l'opposition pure et simple ? Est-ce qu'elle écrit un pamphlet à bas Bonaparte ? Ou comment ça se manifeste ?
Alors, elle n'écrit pas de pamphlet contre Bonaparte. C'est, je dirais, beaucoup plus fin que cela. Elle n'écrit pas pro-Bonaparte. Et vous savez que Bonaparte, quand il devient Napoléon en particulier, il procède à ce qu'on a appelé la conscription des poètes. Il essaie d'utiliser les plumes des grands écrivains et de les mettre à son service. Et Germaine de Staël se refuse absolument à rentrer dans ce jeu-là. Et donc, elle ne loue pas l'homme fort de la France. On dit que lorsqu'elle publie son premier roman en 1802, Delphine, il est agacé par exemple, de ne pas voir qu'on le salue, qu'on le loue. Il aurait voulu, dans son second roman de 1807, Corinne, avoir une préface dans laquelle il y aurait eu un éloge de l'Empire. Eh bien, Germaine de Staël se refuse à tout cela.
Mais est-ce que, avant même les deux romans que vous citez, et je pense à De la littérature, dont le titre exact, d'ailleurs, c'est intéressant, et De la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales, qui est de 1800, tout en se croyant modérée, elle exaspère Bonaparte parce qu'elle fait à peu près profession de foi républicaine.
Alors, tout à fait. Germaine de Staël, pendant la Révolution, s'est découverte républicaine. Au début de la Révolution, elle n'a pas du tout un engagement politique ou philosophique en faveur de la République. Elle pense plutôt, comme la plupart des membres d'une certaine élite libérale, qu'on pourra réformer la monarchie, et arriver à quelque chose qui ressemblerait au système parlementaire britannique. C'est à cela qu'elle aspire. Et elle découvre en cours de route que la République est un régime qui correspond à ses idéaux intellectuels. Et elle reste profondément républicaine dans l'âme, je crois, lorsqu'elle voit émerger ce Bonaparte qui donc a été un héros et qui va devenir l'empereur exécré.
Comment est-ce que Napoléon l'a embêté de manière pratique ? Parce que c'est là qu'on voit que comment les dictatures procèdent. Là, nous parlons d'idées, effectivement, c'est très important. Mais de manière pratique, comment est-ce qu'on a... Elle parle à un moment, je cite ça de mémoire, ça me revient en tête, dans je ne sais plus quel livre, elle dit... Elle parle de la persécution minutieuse avec laquelle Napoléon l'a poursuivi. Où était la minutie ?
Alors la minutie, elle est dans le fait de l'exiler, d'aller contrôler ce qu'elle fait, d'envoyer, par exemple, en 1810, quand elle est à côté de Blois, d'avoir des gens qui viennent la surveiller, qui font le relevé des allées et venues lorsqu'on lui rend visite, de dire mais voilà, un tel est venu lui rendre visite à telle heure, voilà de quoi on pense qu'ils ont parlé, etc. Il y a toute une série de contrôles qui s'exercent sur elle chaque fois qu'elle essaie, en respectant plus ou moins, hein, parce qu'elle aussi elle joue avec les limites tant qu'elle peut, en respectant les distances qui lui sont imposées, on vient lui dire ah maintenant il faut bouger, il faut aller un peu plus loin, etc. Donc c'est vraiment une espèce d'acharnement. On ne veut pas la laisser en paix. Je crois que Napoléon a peur que si on la laisse en paix, eh bien, elle va produire une œuvre qui va l'énerver. Et l'œuvre qui va l'énerver, évidemment, ça va être, on a parlé de trois d'entre elles, mais en 1813, de l'Allemagne.
Et d'ailleurs, au moment de la publication de l'Allemagne, c'est par Madame de Staël elle-même qu'on le sait, car elle le rapporte dans la préface à une réédition du livre. Savary, le ministre de la police, fait l'accusation qui est la plus dangereuse dans un régime autoritaire. Il lui dit « Votre ouvrage n'est pas français ».
Alors oui, cela se passe en 1810 et je dirais que c'est le point culminant des attaques de Napoléon contre Germaine de Staël. En effet, elle est en train de corriger les dernières étapes de son grand livre de l'Allemagne, qui sera véritablement une révélation pour les Français. Autant Corinne ou l'Italie avaient ouvert la perspective d'une Italie qu'on connaissait mal, en suggérant qu'il pouvait y avoir un avantage non seulement culturel, mais aussi politique, à retrouver les bases de l'Italie ancienne et aller vers un avenir dans lequel il y aurait une unité italienne qui ne serait pas du tout en tant que satellite de la France. Mais dans De l'Allemagne, Germaine de Staël, donc, en quelque sorte, montre aux Français pour la première fois ce qui est en train de se passer, surtout en termes esthétiques, de l'autre côté de la frontière. Donc comment le romantisme est en train de surgir outre-Rhin. Et ce livre, elle est donc en train d'y mettre la dernière main, lorsque on vient lui dire, eh bien c'est fini, on confisque tout. Et donc on confisque tout ce qu'on peut confisquer, pas le manuscrit qu'elle réussit à garder, on lui donne un ordre de départ, on va chez l'imprimeur pour détruire tout ce qui est déjà produit. Donc le livre sortira 3 ans plus tard, alors qu'en 1810, tout était prêt. Et donc ça a été pour elle, je crois, un des grands moments de désespoir, je pense, qui est un désespoir politique, affectif, littéraire, parce que cette accusation, ce livre n'est pas français, touche à sa culture fondamentale. Elle se considère comme française. Elle est née de parents suisses, mais elle est née à Paris. Elle a été élevée à Paris. Je disais tout à l'heure, elle estime que Paris est nécessaire. Et donc, on l'attaque dans son être même. Et ce sont des attaques qui disent « elle n'est pas française, elle écrit comme une Allemande, elle essaie de dépasser les frontières qui devraient être celles que toute femme normale devrait se contraindre à respecter, etc. » Donc, on attaque l'essence de l'individu.
D'ailleurs, vous venez de dire à son propos, c'est sa culture, et vous savez, c'est dans ce livre, c'est dans De l'Allemagne, et c'est grâce à Madame de Staël que l'emploi du mot culture tel que vous venez de le faire est arrivé en France, car elle a traduit littéralement de l'allemand le mot Kultur à propos d'une phrase de Kant, et alors que c'était pas du tout un usage français auparavant, et c'est grâce à elle, ou à cause d'elle, comme on voudra, que le mot culture dans ce sens est arrivé en français.
Et je trouve que c'est un bel hommage que de rappeler cela, en effet, parce que c'est quelqu'un qui importe des concepts, qui importe des idées et qui est extrêmement ouverte à toute différence. Elle dit à plusieurs reprises, il faut traduire les ouvrages de nos voisins. C'est comme ça que nous allons nous enrichir intellectuellement, philosophiquement, esthétiquement. C'est vraiment quelqu'un qui a une soif de connaissance, mais qui a une soif de connaissance pour essayer de comprendre.
Nous allons maintenant entendre un autre écrivain d'opposition qui était Simone de Beauvoir. Elle critique la position des communistes et des socialistes à propos de la guerre d'Algérie. C'est extrait des Nuits magnétiques du 2 février 1979.
Nous n'avons jamais été affiliés à aucun parti, ni pris dans aucune espèce d'idéologie figée. Il s'agissait de faire, comme vous le disiez tout à l'heure dans une conversation, au coup par coup. C'est-à-dire que sur chaque plan, nous élaborions nos jugements, nos idées et nous prenions nos positions. Par exemple, je ne sais pas, enfin, les grands moments, ça a été, mettons, la guerre d'Algérie. Ben, au moment de la guerre d'Algérie, il est évident que socialistes, communistes, étaient d'une certaine manière contre la guerre, mais n'étaient pas d'une manière franche pour l'indépendance. Alors que nous avons été quelques-uns, dont vous étiez, à signer le manifeste des 121, qui ont été plus nombreux par ailleurs, qui vraiment réclamaient l'indépendance de l'Algérie, et même plus que ça, réclamaient l'amnistie, je ne sais plus exactement les termes, enfin, pour tous les soldats, par exemple, qui déserteraient et qui manifesteraient leur refus de la guerre d'Algérie. Ça, c'était une position qui a été quand même très, très personnelle, je ne dis pas au seul temps moderne, mais un petit groupe d'intellectuels auquel l'État moderne se ralliait.
Catherine Asset, si on raisonnait par genre, le comportement politique d'un homme sous l'Empire pourrait faire honte aux hommes. C'est celui d'un ancien amoureux de Madame de Staël, c'est Benjamin Constant. Car enfin, s'il s'est opposé à Bonaparte et a été exclu du tribunat, il s'est jeté dans ses bras au moment des 100 jours.
Alors, en effet, il a eu une évolution politique qui est très proche de celle de Germaine de Staël, mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est au moment où ils vivent ensemble, eh bien, ils ont chacun leur distance. C'est-à-dire que Germaine de Staël, par exemple, au moment d'écrire de la littérature, elle croit à une vertu performative de la littérature. Elle croit que la culture a un rôle politique à jouer, à proprement parler, par exemple. Et Benjamin Constant n'y croit pas.
Y compris dans la fiction, elle. Hein. Elle pense que la fiction a une valeur pédagogique.
Germaine de Staël pense que la fiction a une valeur pédagogique et même que parfois c'est la meilleure manière possible de faire passer des idées. Et il me semble que dans un ouvrage comme Delphine, donc qui est son premier roman, Germaine de Staël montre comment l'opinion publique peut intervenir dans la vie des êtres humains. Donc la mesure dans laquelle on peut prendre en charge sa vie est bridée ou non par le respect que l'on accorde à l'opinion publique. Et donc ça, c'est un exemple de moment où elle voit la littérature comme ayant une sorte de fonction pédagogique, oui.
Le sort qu'on fait aux femmes est important chez elles. Ça nous paraît, on vient d'entendre Simone de Beauvoir, ça nous paraît plus naturel maintenant, puisque les femmes donnent tout à fait naturellement leur avis. Ça l'était un peu moins sous l'Empire, qui avait d'ailleurs été assez rétrograde par rapport à la fin du XVIIIe siècle, où les femmes étaient plus admises à donner leur avis. Et pour Napoléon, en somme, Madame de Staël, c'était une emmerdeuse. Et donc, en plus de ça, c'était une emmerdeuse célèbre. Et je pense que la concurrence de Napoléon et de Madame de Staël, vous me direz si je me trompe, est peut-être plus de l'ordre de la célébrité que de la politique. Parce que Napoléon avait besoin de la célébrité pour asseoir son pouvoir, c'était pas un roi.
Alors vous avez raison, les deux dimensions se concurrencent en quelque sorte dans la lutte entre Germaine de Staël et Napoléon, puisque Germaine de Staël, Jacques de Norvin le dit, Jacques de Norvin qui a été sauvé par Germaine de Staël, mais qui s'est rallié à Napoléon Bonaparte, eh bien il dit Germaine de Staël avait, avant même l'empereur, conquis l'Europe. Elle a une célébrité qu'on ne peut pas imaginer de nos jours. C'est quelqu'un qui est connu partout. Elle est connue en France, elle est connue en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. On traduit ses livres. C'est une personnalité qui était déjà repérée en quelque sorte grâce à son père, célèbre ministre avant la Révolution, et qui ensuite devient extrêmement visible sur la scène européenne. Et cette célébrité pan-européenne est quelque chose d'extraordinaire en soi, mais surtout quelque chose d'extraordinaire pour une femme qui est une intellectuelle. Elle aurait été une princesse ou une actrice, par exemple, on aurait pu le comprendre. Mais véritablement, quelqu'un qui s'inscrit dans une dimension qui est une dimension philosophique, politique et littéraire, représente une concurrence extrêmement dangereuse pour quelqu'un comme Napoléon, qui entend occuper un espace de gloire, en quelque sorte, à lui tout seul. Germaine de Staël était une causeuse brillante. On va écouter ses conversations. On est séduit, passionné.
Elle avait très beaux yeux aussi. L'Europe entière parlait de ses beaux yeux. Lamartine raconte ça.
Écoutez, c'est magnifique comme témoignage. Il y en a beaucoup aussi sur la qualité de sa conversation, mais aussi sur sa générosité. Elle aime écouter les autres. Elle aime entendre ce qu'ils ont à dire. Et très souvent, dans les conversations qui se tiennent à Coppet, s'élaborent des idées, je pense, des idées qui vont avoir un impact ensuite dans des œuvres différentes qui sont produites par ceux et celles qui se rendent à Coppet et qui auront, je pense, un retentissement considérable dans l'Europe entière.
Dans De la littérature, elle dit que l'ordre social est, je cite, « tout entier armé contre une femme qui veut se mettre à la hauteur de la réputation des hommes ». Est-ce qu'elle a jamais parlé dans aucun de ses livres de la militarisation de la France? Car c'était assez nouveau. Tout d'un coup, la France, c'était la première fois que la France était dirigée par un militaire en tant que tel. Et ça veut dire que c'était de la virilité qui s'opposait à la féminité. C'était une chose très nouvelle. Là aussi, ça va de soi, parce que Napoléon est Napoléon, mais jamais la France n'avait été dirigée par un chef militaire avant.
Alors, ça gêne Germaine de Staël, dès le départ, que la France devienne un État viril. Sous la Révolution, c'est une des choses qui l'a fait pencher contre ce qui est en train de se passer, cette virilisation, et il est très clair qu'elle est très gênée par cette république qui l'empêche de s'exprimer. En même temps, ce n'est pas quelqu'un qui, comme Olympe de Gouges, va réclamer une égalité absolue pour les femmes. C'est une femme très consciente d'être femme, très consciente de partager le sort des femmes à bien des égards, mais aussi quelqu'un qui se considère un peu comme une exception. Et il y a un aspect par lequel elle admire les militaires, c'est qu'elle voit le sacrifice de sa vie à la nation, à une grande idée, comme quelque chose de glorieux. Donc pour elle, il peut y avoir un héroïsme militaire et elle envie quelque part, parfois, cet héroïsme militaire aux Français.
Nous parlons beaucoup de politique, Catherine Assette, mais je ne voudrais pas qu'on finisse ce secret professionnel sans dire une chose qui est très importante, c'est que Corinne est un très bon roman, un excellent roman qui a quelque chose de stendhalien dans la vivacité et que pour moi, elle annonce ce que les gens ne disent jamais, beaucoup Stendhal.
Ce qui est clair, c'est que Stendhal a lu Staël et a bien lu Staël, et qu'une partie de cette attirance pour l'Italie qui est traduite dans les œuvres de Stendhal, elle vient très clairement de la lecture d'un ouvrage comme Corinne. Corinne est un succès immense et ce n'est pas étonnant si Germaine de Staël, par Corinne, a aussi été l'une des figures importantes du Risorgimento.
Je me demande si le plus comique dans les rapports entre Napoléon et Madame de Staël n'est pas une phrase qu'il a dite, lui, après sa chute à Las Cases, qui est dans le mémorial de Sainte-Hélène, et avec la cuistrerie qui, avec tout son génie, caractérisait Napoléon, et qui le rapproche par certains moments de Nicolas Sarkozy, ayant des avis sur tout, il dit pompeusement « elle restera ». C'est assez comique, donc cet homme qui avait lu 3 livres et qui en avait écrit un mauvais, décidait de la gloire littéraire de Madame de Staël.
Alors c'est comique, et en même temps, je pense que ça traduit le fait que, tout en se détestant, Germaine de Staël et Napoléon reconnaissent chacun en l'autre un adversaire important.
Mais comment, quelle publicité d'avoir Napoléon pour adversaire?
Je pense que c'est une publicité étonnante, mais je pense que Napoléon ne se trompait pas. Elle était en effet un adversaire à sa mesure. Sinon, il ne se serait pas acharné sur elle. Il y avait d'autres femmes qui publiaient. Il ne s'agissait pas simplement de trouver une femme qui écrivait. Germaine de Staël a une envergure politique et philosophique hors du commun.
Catherine Assette, au début de ce secret professionnel, je disais que Madame de Staël a eu premièrement du génie et deuxièmement était d'opposition. Eh bien, est-ce que son secret professionnel n'est-ce pas précisément cela, qu'elle a été comme ceci parce qu'elle était comme cela? Je veux dire que sa personnalité l'empêchait d'être d'accord avec le pouvoir qui, par nature, est médiocre.
Alors, je pense qu'elle aspirait à un pouvoir vertueux qu'elle n'a pas vu surgir. Donc, si elle avait vu surgir ce pouvoir, elle aurait été d'accord avec lui. Mais son opposition, c'est une opposition très clairement à tout ce qui lui semblait insuffisant, à tout ce qui lui semblait petit, à tout ce qui lui semblait mesquin, malhonnête, bas. Et donc, de ce point de vue-là, elle a été d'opposition parce qu'elle a gardé le cap, elle a gardé ses principes, elle a gardé une forme d'austérité intellectuelle, quelque part, avec son enthousiasme, qui voulait dire qu'il ne fallait pas faire de concessions face à la médiocrité.
C'était Secret professionnel, le 259e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel de la Voltaire Foundation à Oxford. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Cédric Châtelus, recherchina Aude Vassa. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.